Radio Capi, grand témoin.
Il est artiste, comédien, directeur artistique de l'écurie Maloba et directeur du Festival international de l'acteur. C'est aussi un des grands noms du théâtre congolais. Jean-Jacques Chipamba est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Jean-Jacques, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Comment allez-vous?
Oh, je vais très bien.
Vous avez une riche expérience de 38 ans exactement dans le théâtre congolais. Vous y avez côtoyé des grands noms tels que Mutombo Buichi, Nono Bakwa, Mikanza, Ndundu et d'autres. Vous avez aussi plusieurs distinctions. On en parlera dans l'émission et ce sera aussi l'occasion de faire le point du théâtre congolais. Le nom Chaka vous a été donné par votre grand-père qui vous a désigné à sa succession. Que signifie-t-il?
Bon, mais à l'époque, enfin moi, dans ma famille, je suis quand même la famille de chef coutumier, de Chipamba Mukola. Et quand il désigne toujours, enfin dans la succession, il désigne toujours le successeur. Il s'est dit, cet enfant, il choisit parmi ses enfants, il choisit, et pendant une grossesse, il dit, l'enfant-là, si c'est un garçon, c'est mon successeur. Et c'est cet enfant-là à qui on donne le nom de Chaka. Et voilà, c'était moi. Mais je n'ai pas assumé, quoi.
Et pourquoi?
Parce que j'aime pas trop ces histoires traditionnelles. Je n'ai pas vécu là-dedans. Je suis venu à Kinshasa une année après ma naissance. Parce que je suis né à Lubumbashi.
Bien quelle que date exactement?
Du 10 octobre de l'année 57. Et après une année, je suis venu à Kinshasa et je suis jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne connais rien de ça. Mais il y a quand même un Chaka qui avait remplacé à l'époque et qui est toujours là.
Et Chipamba?
En fait, c'est le nom de mon grand-père qui était aussi le nom de mon père. Que j'ai pris.
Qui n'a aucune signification particulière. Le nom Chaka a-t-il une relation quelconque avec le Zulu Chaka?
Non, pas du tout. C'est vrai que chez nous, il y a des Chaka. Bon, on écrit Chaka, on dit Chaka. Mais ce n'est pas la même chose. Hein. Bon, peut-être que ça peut avoir la même signification, mais bon, je n'ai pas cherché. Mais il y a quand même des coïncidences.
Dans votre enfance, vos relations avec votre père, qui était chef coutumier, vous le disiez, n'étaient pas toujours au
C'est
bon
mon grand-père qui était chef
votre coutumier. Votre grand-père, qui était chef coutumier, mais avec votre père, vos relations n'étaient pas toujours au beau fixe. Quel genre d'enfant étiez-vous?
Un enfant turbulent, un enfant qui voulait tout apprendre, tout voir, qui aimait les évasions, qui restait pas sur place, qui aimait découvrir, et ça ne plaisait pas à mon père, parce que j'étais tout le temps sorti, tout le temps parti. Bien que j'étais intelligent à l'école, mais vous savez, à l'époque, les enfants devaient rester à la maison. Donc, mais moi, j'échappais un peu à la vigilance de mes parents. Bon, puis j'étais quand même un bon footballeur, j'aimais jouer au foot et je ne pouvais pas échapper, laisser les amis aller jouer. Donc voilà, donc moi je connais une enfance un peu mouvementée. On allait se baigner dans les rivières Pacajuma, dans les rivières Bongolo, au bassin vert, là où il y avait des lacs d'eau, comme ça on y allait, quoi. Et ça ne plaisait pas à mes parents.
Alors, il faut dire, Jean-Chaka, que vous avez quand même connu une enfance difficile, mouvementée, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui a poussé votre père à vous expulser du toit paternel?
Je ne sais pas. À la mort de ma mère, mon père... Vous savez, quand j'étais petit, j'étais tout le temps malade. J'avais un problème au niveau de la tête, au niveau de ce qu'on appelle parfois le nerf principal. Chaque fois que je lisais beaucoup, surtout pendant les examens, j'avais des maux de tête, j'étais malade. Il fallait acheter des médicaments. À l'époque, c'était, je n'oublie pas, c'est les glutaminol. C'est un médicament qui coûtait énormément cher à l'époque. Et à chaque fois que mon père achetait ces médicaments, ça allait les rendait nerveux parce qu'ils dépensaient de l'argent pour ça. Lui trouvait que c'était pas une maladie. Parfois ma mère se dépensait en vendant des petites choses pour m'acheter ces médicaments. Je ne devais pas manquer. Et chaque fois que je n'avais pas, je ne faisais pas bien mes examens. Ou bien mon père m'interdisait de lire parce que à force de lire, j'ai tombé malade. Voilà un peu. Donc à la mort de ma mère, je n'avais plus un défenseur, quelqu'un qui pouvait plaider pour moi. Alors là, les problèmes ont commencé avec mon père. Et je me sentais seul, je me sentais abandonné par mon père. Je suis devenu insupportable. Donc je me battais tous les jours. Et ça, voilà.
Vous deveniez impossible.
Je devenais impossible et ça l'a poussé à me chasser.
Alors vous logez chez des amis, vous pratiquez tous les petits métiers imaginables, serreur des souliers, vendeur des journaux. Comment avez-vous vécu cet épisode?
C'était dur. Si je n'étais pas intelligent à l'école, je crois que je serais devenu un enfant de la rue. Aussi parce que c'est... J'aime pas tellement y revenir. À la mort de ma mère, j'étais pratiquement à son chevet quand elle rendait l'âme. Elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, il faut que tu étudies. Il faut que tu ailles à l'école, quels que soient les problèmes que tu auras, viens voir. Parce que si tu veux qu'on ne te domine pas, il faut que tu domines. Pour que tu domines, il faut que tu sois à mesure, il faut que tu sois intelligent. Il faut que tu sois quelqu'un. Ça ne sera pas facile. Si je ne suis pas là, tout le monde va chercher à t'écraser, à prendre le dessus pour toi. Il faut te battre. Et c'était les dernières paroles. Donc, c'est resté à moi. Alors, je me suis dit, je n'abandonnerai pas les études. Donc, j'ai eu des moments difficiles. Et moi-même, parfois, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit toujours que Dieu m'aime. Sinon, je ne sais pas aujourd'hui expliquer comment j'ai pu sortir de cette situation. Je ne sais pas comment. Parfois, j'ai payé les études. Je ne sais pas. Mais, les deux dernières années, en cinquième et sixième, j'ai eu quand même quelqu'un, une dame, qui m'a prise en charge et qui a supporté mes études.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Jean Chaka Chipamba, vous êtes artiste comédien, directeur de l'écurie Maloba et directeur du Festival international de l'acteur. Vous êtes aussi un des grands noms du théâtre congolais. Votre père voulait que vous deveniez journaliste, mais malgré sa dureté, c'est quand même lui en même temps qui vous a donné le goût du théâtre. Comment cela?
Voilà. Un jour, il y avait la grande première de la pièce Pas de feu pour les antilopes, monté par le Théâtre National à sa création. Et lui, il était invité. Il m'a dit, comme ça, toi, le turbulent là, je vais te montrer comment tes amis font du théâtre là-bas. Alors, je disais, c'est la première fois que j'ai entendu parler du théâtre. Bon, on est parti. Et arrivé là, j'ai dit, ah, c'est ça qu'on appelle le théâtre. C'est des grands comédiens qui avaient de belles voix, j'ai vu des gens sur la scène, un public dans la salle du zoo, c'était quand même une belle salle à l'époque. Ah, il y avait beaucoup de blancs, il y avait beaucoup. Donc, je me suis senti, après le spectacle, je suis monté sur la scène, parce que les gens allaient saluer les acteurs, et je suis allé les saluer. Ça m'avait fait énormément plaisir de voir ces gens-là sur scène et tout. Et bon, voilà, ça m'a intéressé. On m'a dit qu'ils y répétaient au Kiltrana. Et un jour, j'ai cherché où se trouvait le Kiltrana, je suis allé les voir. J'ai vu les gens en train de parler dans
le vide.
Dans le vide et tout. Et finalement, j'ai vu Doudou Gafoura. J'ai dit, tiens, mais ce type, je le connais, il habite notre quartier. Et voilà comment j'ai fait la connaissance de Doudou. Quelques années plus tard, on allait le voir, il répétait derrière sa maison, et voilà.
Donc, Vos études primaires, une partie, c'est à l'armée du salut de la commune de Lingwala, ici à Kinshasa.
Ouais.
Une autre partie, c'est à Ngiringiri.
Ouais.
Et là, vous nous parliez déjà du moment où vous commencez dans le théâtre avec Doudou Ngafoura.
Ouais.
Et en 1976, vous terminez vos études, vos humanités à l'Athénée de Kalina,
ouais,
l'actuelle Athénée de la Gombe. À quel moment décidez-vous de jouer le théâtre que si l'on vous paye?
Voilà, c'est dans les années 80. Dans les années 80, nous avons créé ce qu'on appelait l'Union des théâtres indépendants. En fait, c'était un mouvement. Il y a quelques comédiens, quelques artistes avec en tête Mutombo Buchi et Chisungu qui se sont dit qu'ils ne peuvent plus faire le théâtre amateur. Ils se sont dit que nous sommes des semi-professionnels. C'est-à-dire, bien que nous ayons un petit métier à gauche, mais nous devons vivre du théâtre. À l'époque, on ne pouvait pas dire ça. C'était une aberration. Comment des gens pouvaient vivre du théâtre? Non, ça c'était qu'un passe-temps. Et ils ont dit que ils ont lancé ce mouvement. Et curieusement, il y avait des gens comme nous qui se disaient que le théâtre devait payer. Parce que nous avons quand même, une fois décidé de faire des tournées dans les unités, dans les écoles, les instituts supérieurs, déjà à l'époque, on faisait payer de l'argent. On s'est retrouvé avec beaucoup d'argent comme ça. On s'est dit, mais tiens, mais ça peut donner de l'argent. Alors maintenant, on commençait à faire ça pour de l'argent. Bon, tu vois, les gens comme nous qui n'avaient pas de soutien des parents, il fallait payer les études, il fallait payer avoir son transport. Donc c'est devenu un goût pour nous. Dit non, on ne peut pas jouer. Pour jouer, il faut avoir de l'argent. Il faut donner, il faut mettre un petit cachet. Allez, il faut aller vendre des billets dans la rue et tout ça. Donc à ce moment-là, on le faisait sans vraiment, y croire. Et voilà. Et ça a pris goût pendant l'Union des théâtres indépendants. Finalement, c'était la guerre entre la TAS et l'Union des théâtres indépendants. On nous mettra tous ensemble pour créer la FENAT, la Fédération nationale des théâtres. Après la Fédération nationale des théâtres, nous avons décidé que nous allons faire du théâtre de l'argent. Et quand je suis venu en 85 dans le Malaïka, et c'est là qu'on a développé ça, parce que nous avions un président, un administrateur qui travaillait à l'ONATRA, qui avait de l'argent, qui a commencé à dire non, il faut chercher de l'argent. Je vais organiser des tournées dans à l'intérieur du pays. Et Mutombo est allé voir Monsieur Bemba, Jeannot, le papa, qui avait ciblé Zaïre à l'époque. On a signé des contrats
pour faciliter le transport.
Et c'est comme ça que moi je peux dire que j'ai fait à deux reprises la tournée du Congo. Je connais vraiment le Congo profond. J'étais un peu partout dans ce pays, dans presque toutes les provinces, j'y étais. Donc je connais un peu le Congo. Je peux me vanter qu'aujourd'hui, je connais notre pays.
Grâce au théâtre. En ce qui concerne la rémunération des comédiens congolais, comment résoudre le problème de la rémunération des comédiens en RDC?
Il faut un statut de l'artiste. C'est-à-dire, il faut un statut. Il faut que d'abord, le métier d'artiste soit reconnu comme étant un métier. Si c'est reconnu comme le métier d'avocat, comme le métier d'infirmier, comme le métier de médecin, là, on pourra parler de rémunération. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste, quel est son salaire aujourd'hui? Il n'a pas de salaire. Aujourd'hui, si moi, on m'appelle pour jouer dans un truc, si je refuse le cachet, mais quelqu'un d'autre viendra prendre. Parce que on vit misérablement. Donc, c'est ça. Donc, la seule solution, il faut reconnaître le métier comme étant un corps de métier et en même temps fixer le SMIG et le SMAC de ce métier. À ce moment-là, on peut parler de rémunération des artistes. C'est pourquoi je dis, parfois, l'artiste, c'est le mal-aimé de la société. Les autorités utilisent les artistes pour leur besoin personnel. Quand ils ont fini, c'est fini, quoi. C'est comme un peu à l'époque des Romains. Les Romains qui prenaient les gladiateurs, les mettaient dans l'arène, ils bouffaient, ils mangeaient.
Pendant qu'ils s'entraînaient,
les uns mouraient là-bas. On mettait un gladiateur face à un lion. Et les lions bouffaient les gladiateurs et ils étaient contents. C'était pas leur problème. C'est ça un peu le rôle des artistes. dans notre pays. Ils sont les gladiateurs qui se battent avec des lions pendant que les autorités sont là en train de rigoler pour leur propre plaisir.
En rapport avec vos études universitaires, vous vous inscrivez à l'Académie des Beaux-Arts où vous faites la décoration intérieure, la publicité, le management. Pourquoi vous n'allez pas à l'INA, l'Institut National des Arts?
Non, à l'époque, je devais choisir entre aller à l'INA et à l'IBTP. Mais moi, je faisais déjà bien mon théâtre. Je me disais, pour être ce que je suis, j'ai pas besoin d'un diplôme. Bon, j'ai besoin des connaissances que j'ai, que je peux avoir n'importe comment. Mais je voudrais ajouter un plus à ma connaissance. Donc, je suis allé faire autre chose que le théâtre pour avoir un diplôme de théâtre. Là, je voulais un diplôme des arts, mais qui ne soit pas le théâtre. Mais je voulais, j'ai beaucoup de diplômes aussi, des attestations, de tous ces ateliers que j'ai fait à travers le monde. Donc, moi, je me disais que j'avais besoin d'un autre
diplôme. De faire autre chose.
Voilà.
De 82 à 85, vous travaillez dans le théâtre Malaika, aux côtés de Mutombo Buichi, un autre monument du théâtre congolais. Comment vous le rencontrez?
Bon, pour ceux qui ne savent pas, Mutombo, c'est mon oncle paternel. C'est
ah
le
bon?
Petit frère de mon père. Voilà, c'est le cousin à mon père. Mais lui faisait toujours son théâtre. Dans la famille, on se connaissait. On se connaissait, on se rencontrait dans les grandes occasions, mais jamais on avait eu l'occasion de travailler. En 82, il y a des comédiens qui les quittent. Ils restent pratiquement seuls. À ce moment-là, comme moi, je venais là, j'habitais Bandal, j'avais aménagé pour Bandal, il est venu me voir pour dire, tiens, je voudrais qu'on remonte les Malaïcas. Bien que je ne voulais pas travailler avec lui, je me dis, bon, dans ces cas-là, c'est l'affaire de famille. Je suis allé lui porter main forte. Mais bon, en 85, j'étais obligé de quitter et créer ma propre troupe.
Radio Capi, grand témoin.
Il est artiste comédien, directeur de l'écurie Maloba et directeur du Festival international de l'acteur. C'est aussi un des grands noms du théâtre congolais. Jean-Chaka Tshipamba est aujourd'hui l'invité de grand témoin. En 1985, Jean-Chaka, vous créez le Focus Baobab. En 88, vous retrouvez votre oncle paternel Mutombo Buichi et Chisungu dans un autre cadre plus élargi, l'écurie Maloba. Quelles sont les œuvres qui ont marqué cette alliance?
Il y a eu le Baron de Mpiza, il y a eu Scandale, la nouvelle version de Scandale de l'écurie Maloba. Il y a eu Le Voleur ne volera plus, il y a eu Noko, et puis après Mutombo, avec Mutombo, nous avons aussi Mourir en Europe, qui était un grand spectacle. C'est dommage qu'il n'a pas eu beaucoup de retentissement ou bien beaucoup de succès, parce que on parlait plus de ces gens qui allaient mourir en Europe, qui étaient des grands talents ici et qui aussitôt qu'ils émigraient, c'était fini pour eux, quoi. Ils commençaient à faire autre chose au lieu de faire des arts. Et après Mutombo, il y a eu des spectacles comme avant quand même il y a eu Son et Lumière pour Lumumba. Un spectacle très engagé, on a failli avoir des problèmes aussi avec ce spectacle. Il y a eu des Rions Plus quand on a commencé comme les pensionnés.
Les affaires sont les affaires.
Les affaires sont les affaires. Il y a eu les ministres de transition. Il y a eu, après, quand l'arrivée de Kabila, Diaspora Mania, cette spectacle qui avait été interdite parce que on parlait des Rwandais qui allaient nous attaquer, et comme les Rwandais étaient tout puissants ici, bref, on a interdit ce spectacle. Mais ce qui me plaisait, ce qui m'a plu après cet épisode, c'est quand les Rwandais nous ont attaqués, les gens qui avaient interdit ce spectacle sont venus nous voir pour refaire ce spectacle, et là nous avons refusé.
En 91, vous remportez le Grand Prix d'interprétation Calende d'Or FIA. Expliquez-nous ça.
Oui, à la création du Festival international de l'acteur, au départ, c'était un festival concours. On voulait récompenser ces acteurs, ces gens qui font que des textes deviennent des spectacles. ces gens qui étaient peut-être les oubliés, parce que quand on paye les droits d'auteur, on donne à l'auteur qui a écrit, on oublie parfois les artistes qui ont fait que cette, donc voilà, que cette œuvre ou cette écriture soit mouvement, soit spectacle. Et c'était un festival concours qui compensait les metteurs en scène, les comédiens, les régisseurs, les costumiers et tout. Et à la première édition, j'étais les Grand Prix. Finalement, il y a eu quelques problèmes parce qu'on était en même temps organisateur. Bon, à la troisième édition, nous avons dit, nous les organisateurs, nous ne participons plus. Nous participons, mais nous ne sommes pas dans le concours pour éviter que ce soit nous
qui jugeons parti.
Voilà. Mais bien que le jury était composé de gens vraiment neutres, qui n'avaient rien à voir avec le Curie Maloba. Mais bon, vous savez, faire expliquer ça à un Congolais, c'est toujours difficile. Bon, alors nous sommes retirés. Mais après la troisième édition, après la quatrième édition, on a remarqué que le festival avait perdu de son côté festivité, de son côté plaisir, de ce côté joie, de ce côté rencontre, on s'est rencontré pour se connaître. Mais le festival était devenu une rencontre de tendances, c'est-à-dire les gens se regardaient comme des adversaires. Il n'y avait plus lieu à la fête, quoi. Alors on s'est dit, tiens, pour avoir la fête, pour avoir ce plaisir-là, pour retrouver le côté festivité, nous devons enlever le concours. Restons seulement ce festival qui soit vraiment des rencontres, des retrouvailles, des rencontres de création, des rencontres d'échange d'idées, voilà. Et après les quatre éditions, allez, on a enlevé le côté festival, on a gardé seulement le côté festivité.
Voilà. Jean Chek, en 2001, 2002 et 2003, vous êtes sacré meilleur comédien par l'Agence pour la promotion sociale et culturelle. Certains comédiens estiment qu'aujourd'hui, le théâtre populaire congolais ne fait que abrutir. Comment redonner, à votre avis, son sens à ce théâtre?
Ouais, ça dépend des thèmes. Vous savez, quand je dis ça souvent, j'ai des problèmes avec des amis du théâtre populaire qui pensent que je les injurie. Je dis non, il y a trop d'ignorants au théâtre et trop d'analphabètes, dans les arts en général, et surtout au théâtre. Les gens pensent que on devient comédien qui veut. C'est ce qui fait que tout le monde, puisqu'il y a la télévision, tout le monde, parce qu'il veut se faire voir, il veut se faire connaître, vient au théâtre. Ou bien vont faire la musique. Il faut apprendre. Et c'est souvent au niveau des thèmes. Et comme le théâtre et comme le cinéma ne payent pas en général, les gens déforment même le message pour essayer de gagner la vie. Et moi je dis que c'est le théâtre du ventre. C'est-à-dire les gens font du théâtre pour le ventre, c'est-à-dire pour manger. Alors ils font des films pour manger. Et c'est ça qui a prostitué le théâtre. Mais il faut qu'on revienne dans les normes. J'ai dit qu'il faut que les normes... En fait, le Congo a besoin de revenir aux normes.
Dans tous les secteurs.
Dans tous les secteurs. Pour que nous puissions réussir et décoller. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui est hors norme. Il faut maintenant que l'autorité qui gère le théâtre, qui gère les arts, décide que ne passe pas à la télévision qui veut, ne fait pas du théâtre qui veut. Pour faire du théâtre, il faut que les normes soient respectées. C'est tout ce que je demande. Et à ces amis-là, il faut qu'ils fassent un effort de s'informer et de se former. Tout le problème, c'est l'information et la formation. Quand on n'a pas l'information, on ne peut pas avoir la formation acquise pour faire ce qu'on fait. Donc, mais il faut s'informer pour avoir l'information. Il faut se former aussi pour être au top et faire des choses. Et c'est ce qui manque à ce théâtre-là. Si on ajoute ça, moi je pense que on peut décoller.
Jean Chaka, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Nous avons contacté quelqu'un qui vous connaît. Je vous invite à suivre le témoignage qui fait de vous.
Ah bon? Ok.
Moi, je m'appelle Lié Yoka, je suis enseignant à l'université et notamment à l'Institut national des arts. J'ai rencontré Jean Chacard dans les milieux, j'allais dire, naturels du théâtre, puisque, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a fait l'Académie des Beaux-Arts et puis après, qui a été dans le sillon de Mutombo Bichi. Et donc, c'est tout naturellement que nos chemins se sont croisés, même si je le considère comme un jeune frère.
Professeur Yoka, parmi les œuvres ou les pièces dans lesquelles a joué Jean Chacard, laquelle vous a le plus marqué et pourquoi?
Ben, écoutez, je serais tenté de dire que c'est Le Fossoyeur, parce que d'abord c'est un spectacle que j'ai créé, mais qui n'était pas un spectacle de théâtre. C'était une nouvelle. Comme vous savez, Le Fossoyeur a été le Grand Prix RFI 1976. Et le tour de force pour Jean Chacard, c'était de pouvoir tourner un spectacle qui n'était pas un spectacle, qui était en fait une nouvelle, de le tourner en art dramatique, et deuxième tour de passe, de jouer ce spectacle en solo, et troisième tour de passe-passe, de se laisser guider par un autre metteur en scène, et en l'occurrence Mwambaye, et quatrième tour de passe-passe, c'est de pouvoir faire une deuxième version de ce spectacle, après un premier spectacle que nous avons estimé améliorable.
Jean Chacard est avec nous au studio. Pouvez-vous lui adresser un petit message, professeur Yoka?
Ben, je voudrais lui dire que nous sommes une génération qui passons, que de plus en plus nous leur laissons la place. Il le sait, parce que je le lui dis, c'est quelqu'un qui a un franc-parler, mais c'est envers lui, pour l'amitié que je porte pour lui, j'ai du franc-parler aussi, qu'il prépare le relève et que pour cette relève-là, il faut qu'il se prépare lui-même à être un notable. Et être notable, c'est avoir une charge. Charge, c'est dans les deux sens du terme, c'est-à-dire avoir un poids sur soi, mais aussi avoir une responsabilité. C'est le message que je lui adresse, mais je lui adresse naturellement aussi un message d'amitié et d'affection, parce qu'il sait que je les ai de tout mon cœur pour lui.
Professeur Yoka, merci beaucoup.
C'est moi, merci.
Jean Chacard, comment réagissez-vous au propos du professeur Yoka? Je vous ai vu au début ému, hochant la tête en signe d'accord. Réaction?
Non, merci professeur, ça me va droit au cœur. Bon, mais je le sais, ce qu'il m'a dit, il me l'a dit toujours. Bon, mais moi aussi j'ai un faible pour lui, hein. C'est-à-dire que Yoka, j'ai lu ses écrits, et quand j'avais lu Le Fossoyeur, j'ai dit, tiens, voilà un spectacle. Mais lui-même n'avait jamais vu Le Fossoyeur comme étant un spectacle. Bon, moi j'ai dit, je vais le faire en solo. Ah, il était surpris, et je viens même de remonter le spectacle 15 ans après. Alors, bon, j'ai remonté le spectacle parce que, justement, j'ai vu beaucoup de gens ont joué des one-man show, hein. Les solos, c'est pas convaincant. J'ai remis le spectacle en jeu pour essayer de remonter encore la polémique. Mais sinon, il n'y a pas que Le Fossoyeur que j'ai monté de lui, j'ai monté aussi Le Condamné à mort. C'est encore une nouvelle de lui, L'Araignée, que j'ai mis en scène. Mais ça, j'avais travaillé avec Titenge Sana. Il avait fait les découpages, tout ça. Quand on a commencé les montages, il est mort. Dommage. Mais j'ai continué après seul. Mais je crois que je ne l'ai pas décidé non plus. Mais en tout cas, ce qu'il me dit, me va droit au cœur. C'est ce que j'ai continué à faire. J'assume.
Alors, pour clôturer cette émission, Jean Chacard, aujourd'hui marié, père de 4 enfants, quel message pouvez-vous adresser à la jeunesse congolaise qui vous suit en ce moment?
J'ai dit que la jeunesse congolaise doit prendre sa destinée à main. Vous savez, chez nous, c'est devenu chasse et locopambe. C'est-à-dire, les jeunes d'aujourd'hui ne se battent plus. Ils pensent que tout doit être fait pour eux. C'est ça. C'est ce qui est dommage. Les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus. Les jeunes d'aujourd'hui ne fréquentent plus les bibliothèques. Les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas voir le vrai cinéma. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent rien sur la culture. Et ça, quand quelqu'un n'a pas de notion de culture, vraiment, c'est un illettré. C'est un analphabète. Et il faut. Moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre que ça ne sera pas facile. Personne ne leur fera de cadeau. Et que pour réussir, il faut se battre. Il faut se battre. C'est ce qui manque à la jeunesse d'aujourd'hui.
Jean-Chacard Tshipamba, merci d'être passé à Grand Témoin.
C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Jean-Jacques Chipamba, artiste et comédien, directeur de l'écurie Maloba et directeur du Festival International de l'Acteur, un des grands noms du théâtre congolais. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la réalisation et à la technique, à la présentation Alain Irung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez nous écrire et réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Moba dans la province du Katanga et partout dans le monde.